Bienvenue sur le podcast de Moodstep où nous parlons des intelligences au travail, de comment être mieux au travail, comment mieux travailler ensemble. Et j'ai du mal à définir la ligne éditoriale de Moodstep puisque parfois je vais aux limites de ce monde et c'est ce qui va se passer aujourd'hui puisque nous allons à la rencontre d'un professeur, d'un pédagogue curieux qui est allé étudier plein de disciplines pour être un meilleur prof, tout simplement. Je suis Johanna Kellen, opératrice de Turbine à Bonheur et votre hôte pour ce podcast. Retrouvons tout de suite Christian. Bonjour Christian.
Bonjour Johanna.
Bienvenue sur ce podcast. Nous allons parler de pédagogie parce que vous êtes un artisan pédagogue. Et que je pense que c'est fondamental, en fait, la façon dont on apprend et dont on progresse. Donc, vous venez du monde de l'éducation. Et justement, pour mieux comprendre qui vous êtes, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques minutes, s'il vous plaît?
Oui, alors rapidement, je suis professeur depuis 1993. Donc, je suis un vieux professeur. J'ai parcouru une dizaine d'établissements. Et depuis 2000, je suis dans le même établissement. Donc ça fait 18 ans que je suis dans un collège REP dans Lyon et j'enseigne donc le français, hein, la littérature et la grammaire. Donc il y a deux éléments dans ce que je peux entreprendre. Il y a l'éducation d'une part, l'accompagnement à l'éducation et la pédagogie. Je vois une centaine d'enfants chaque année, pas plus, je n'ai que 4 classes, donc je suis privilégié par rapport à mes collègues, et je vois les enfants 4 ou 5 heures par semaine, ce qui est le nombre d'horaires le plus élevé au collège, avec une classe. Je suis passionné par la pédagogie et forcément par le management, puisque les deux, pour moi, sont exactement identiques. Je suis passionné également à travers la pédagogie et le management par les travaux qui ont été faits pendant les conférences de Massy, où sont apparus à la fois le constructivisme, la cybernétique, le MRI de Palo Alto avec Batson ou Paul Vaslavik, et également l'approche systémique. Hein, tout ça est apparu à la suite de ces conférences. Depuis 2009, j'essaie de mettre en place le socle commun de compétences qui a été ajouté au programme.
C'est quoi le socle commun de compétences pour ceux qui ne sont pas dans l'éducation?
Alors, le socle commun, au départ, était une recommandation du Parlement européen en 2005 que la France a adoptée. Il s'agit de différentes compétences clés pour l'épanouissement des individus, pour leur permettre de savoir lire, d'utiliser ce qu'ils lisent, de savoir communiquer avec les autres, de savoir entreprendre, de savoir faire des projets. Donc c'est quelque chose qui est fondamental pour un individu, à la fois dans sa vie sociale plus tard, mais également dans sa vie économique, dans sa vie de futur salarié ou chef d'entreprise ou artisan, ou peu importe ce qu'il pourra faire dans la vie. Donc tout ça s'apprend forcément, c'est pas inné pour l'homo sapiens. D'où ces compétences clés qui doivent être apprises. Et une compétence ne peut être réalisable qu'à travers à la fois des connaissances, des aptitudes et des attitudes. Et si on ne donne pas l'occasion aux enfants d'expérimenter ces aptitudes, la compétence ne peut pas être consolidée, forcément.
Vous avez développé votre propre socle éducariote. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus, c'est quoi?
La difficulté avec le socle commun, c'était comment est-ce que je fais? Comment est-ce que je fais, moi qui ai eu un enseignement où j'étais assis pendant toute ma scolarité à écouter le professeur, ensuite on fait une interro, et là, on me demande de faire l'inverse, en fait, de mettre les enfants dans une pédagogie active, comme le mentionnait John Dewey au début du 20e siècle. Donc, je suis allé chercher à travers l'agilité, le management, enfin le manifeste agile, l'agile, ou le lean à travers Toyota, des états d'esprit, des expériences qui ont été faites pour mettre en valeur l'apprentissage et les compétences. Donc, j'en suis arrivé à Educariote, qui est une zone d'influence pour moi, pour essayer également d'être compétent dans divers domaines, Car la pédagogie est quelque chose, est une activité transdisciplinaire, ce n'est pas une activité en dehors de la réalité. Donc on est obligé, pour accompagner des enfants, des homo sapiens, de connaître énormément de disciplines. Or, en tant que professeur de français, à 18 ans, à l'âge de 18 ans, on m'a privé de sciences, on m'a privé d'énormément de disciplines qui sont indispensables pour mon métier. Et donc, Éducariote reprend en deux domaines complémentaires. D'une part, une culture, donc l'influence de l'agile, l'influence du lean, l'influence des sciences, les neurosciences, psychologie cognitive. Et de l'autre côté, des systèmes, on va dire, naturels, plus ou moins naturels, donc le biomimétisme, la permaculture et la notion de hasard qui est présente dans l'évolution darwinienne et dans l'adaptation des espèces dans des environnements changeants, ce qui est le cas dans une salle de classe. Donc, à travers ce système, plus des outils comme le modèle de Schneider, Kinéphine, la spirale dynamique de Claire Graves, de l'autre côté, la notion de constructivisme, de cybernétique, j'essaie, en apprenant comme les enfants dans la salle de classe, j'essaie en apprenant d'être de plus en plus compétent dans ma discipline et donc de mettre en place ce socle de connaissances, de compétences et de culture avec, en plus, le programme officiel. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi qu'il y a un programme qui s'intègre dans le socle. Donc tout ça est complexe, donc passionnant, ce qui fait que je suis tout le temps en train d'apprendre parce que les élèves apprennent. Et c'est pour moi la base d'un métier. On va à son travail, entre guillemets, non pas pour travailler et faire ce qu'on nous dit, mais pour d'abord apprendre. Apprendre de la chimie, de la physique, des sciences sociales, parce que tout ça est mêlé dans une entreprise, dans une association ou dans un lieu d'artisanat.
Alors, comment apprend-on ?
Ah !
Comment apprend-on mieux ou comment crée-t-on un environnement qui soit propice à l'apprentissage ?
Alors tout d'abord, un environnement, étant donné que l'environnement change tout le temps, puisque on est en présence d'individus qui eux-mêmes changent, ont du mal à savoir qui ils sont, donc prendre d'abord conscience que l'environnement est changeant et que nous sommes également porteurs du changement de l'environnement. Donc apprendre, c'est déjà avoir confiance en soi et également avoir une estime de soi. Donc une estime, c'est-à-dire quelle valeur je peux bien avoir en tant que telle, mais la confiance, c'est dans différents environnements et avec différentes personnes, se dire qu'il y a une confiance partagée et qu'il y a un espoir ou des espoirs, de l'espoir de réussir à apprendre davantage. Alors, apprendre davantage, ça ne veut pas forcément dire réussir. Il n'y a pas une limite de 0 à 20. À 20, on a réussi. C'est totalement infini. Donc, c'est plutôt l'espoir de s'améliorer, d'évoluer, de se métamorphoser petit à petit. Pour moi, apprendre, c'est ça. C'est prendre son temps, accepter les erreurs, accepter les échecs, et être confronté à des contraintes inévitables.
Et donc, chez les enfants, est-ce que cette estime de soi, cette confiance, elle est là de prime abord ou il faut la cultiver? Comment on fait? Il doit y avoir des enfants qui n'ont pas confiance en eux et il faut débloquer ça. Comment ça se passe?
Alors, la confiance, je me souviens de cette phrase de Ken Robinson dans une de ses conférences TED qui dit que l'école tue la créativité. Je suis à peu près d'accord, plus ou moins. À mon sens, l'école tue l'espoir, tue l'espérance. Dans la mesure où la notion d'erreur n'est pas acceptée, la notion d'évolution n'est pas ancrée dans la culture. La notation est terrible. Mettre une note qui va définir un enfant, un individu, c'est assez terrifiant de se dire je ne vaux que 6 ou 18 ou 15. Les enfants qui ont de très bonnes notes ont aussi très peu confiance en eux. Des enfants... Enfin voilà, c'est excessivement complexe. Donc, comment mettre en place un sentiment de confiance? Le socle commun de connaissances, compétences et cultures donne cette possibilité, dans la mesure où il demande à ce qu'on s'adapte aux difficultés des enfants, à leur réussite, et non pas les juger, mais les accompagner à ne plus faire les mêmes erreurs. Non pas en les punissant, évidemment, mais en leur donnant la possibilité de recommencer, de se dire, ce qui se passe dans une salle de classe, ce ne sont que des hypothèses, que des possibilités, donc forcément des erreurs, en quelque sorte, et donc donner l'espoir de pouvoir recommencer, l'espoir de s'améliorer.
Mais ce qu'il y a, c'est que si on fait le parallèle avec l'entreprise, dans l'entreprise, on n'est plus dans un environnement clos où on est là pour apprendre et peut-être faire des erreurs. Si je suis manager, est-ce que l'erreur fait partie de toute notre vie de l'apprentissage, et comment est-ce qu'on intègre la possibilité de faire des erreurs dans des équipes ?
Alors, c'est ce que je ressens et ce que j'ai un peu vu quand j'ai visité des entreprises qui avaient un état d'esprit agile, c'est justement cette confiance entre les individus, c'est-à-dire que la première valeur du manifeste agile, c'est les interactions entre les individus. Donc ça, c'est important. Et la notion de communication entre les individus crée chez chacun de nous des quiproquos, des biais cognitifs, des erreurs. Et donc, c'est la communication qui prime, et donc apprendre sur soi, apprendre sur les autres, c'est quelque chose qui est continu. Et dans cet état d'esprit agile, ce qui prime, c'est bien la bienveillance et le fait qu'une erreur n'est simplement qu'une... Enfin, on se rend compte de l'erreur a posteriori. Personne ne fait une erreur de manière consciente en se disant « je vais faire une erreur pour embêter tout le monde ». Donc, la rétroaction sur la personne qui fait une erreur ou l'équipe qui fait une erreur est tout à fait normale. Et dans l'état d'esprit agile, cette notion d'erreur est purement intégrée au processus créatif et au processus d'amélioration d'un produit. Donc, c'est vraiment d'abord un état d'esprit plus que des outils, bien sûr. Et ça, c'est quelque chose d'excessivement complexe et de très, très fragile, hein, bien sûr.
Est-ce que vous pouvez dire ce qu'est le manifeste agile pour les gens qui ne sont pas dans l'agilité ?
Le manifeste agile donc, a été créé en 2 jours par des programmeurs. Une réunion un peu par hasard, quelque part dans les montagnes rocheuses des États-Unis. Le manifeste agile a regroupé une quinzaine de programmeurs, parfois des concurrents, qui se sont dit « nos pratiques fonctionnent, nous arrivons à créer des produits qui fonctionnent, quels sont nos points communs ?» Ils sont arrivés à 4 valeurs et 12 principes. Donc, pour l'instant, je ne retiens que les 4 valeurs. La première valeur, c'est les individus et leurs interactions, plus que les méthodes et les outils. Ça veut dire que les outils et les méthodes sont importantes, mais le fait de communiquer, de dialoguer les uns avec les autres, par des petites réunions, par une réflexion commune, est plus importante qu'un outil qui est figé. La deuxième valeur sera la notion de produit, le produit qui va fonctionner, plus que les rapports qu'on peut faire sur le produit ou le mode d'emploi. Hein, on peut avoir un mode d'emploi qui fonctionne très bien, mais un produit qui ne fonctionne pas. Et donc, j'ai mis en place là la notion de prise de décision pour les enfants, puisqu'on ne fabrique rien dans une salle de classe. C'est toute la différence avec une entreprise ou un artisan ou une association.
Sauf pour la fête des mères, on fait des colliers de nouilles.
Voilà, on fait les colliers de nouilles qui marquent à vie les parents, hein, ça c'est incroyable. Et la troisième valeur correspond à la collaboration avec le client. Avoir dans les états d'esprit agiles, dans les équipes agiles, le client est intégré dans l'équipe. Ce n'est pas quelqu'un qu'on voit une fois pour le contrat et ensuite à la fin pour lui remettre. Il est intégré, on le voit souvent, on le questionne souvent. Et là, c'est la GC, la collaboration avec les parents, mais c'est vraiment difficile.
Pourquoi ?
Collaborer. J'ai 25 enfants et donc j'ai 25 parents différents, 25 cultures différentes, 25 manières de fonctionner. Et certains défendent totalement leur enfant, quoi qu'il fasse, d'autres le délaissent totalement, d'autres accompagnent un peu. Donc voilà, c'est comme certaines entreprises avec qui j'ai discuté, où avec des clients, c'était très compliqué de savoir ce qu'ils voulaient, et d'autres, c'était plus simple. Hein. C'est cette interaction humaine qui est toujours particulière. Et enfin, la quatrième valeur du manifeste agile correspond à la réaction face au changement, à la réponse face au changement, plus que le suivi d'un plan. Bien sûr, il est important de faire un plan, de prévoir des choses, mais on ne va pas suivre le plan qu'on a fait avant de mettre l'équipe en route. Il faut changer, modifier son plan pour pouvoir justement s'adapter, puisque le manifeste agile, au départ, aurait pu s'appeler également le manifeste adaptatif. Agile veut dire adaptatif, c'est-à-dire qu'on doit s'adapter. Et on doit s'adapter aux individus, à l'environnement changeant, aux produits qui changent, aux nouvelles connaissances. C'est ce qui est, pour moi, passionnant, c'est de voir que des gens pragmatiques ont quelque part le socle commun de compétences, qui n'est pas venu là par hasard, hein, et il a été créé. Alors, comment a-t-il été créé par le Parlement européen ? C'est ce que je suis en train de chercher depuis plusieurs mois, mais je ne trouve pas les réponses. Ou quand je trouve les personnes qui ont participé à ce document, je n'ai pour l'instant pas les réponses, et j'ai besoin d'avoir les origines, comme toujours. Et donc, c'est là où c'était passionnant, c'est de me dire, voilà des gens qui sont un peu des hackers d'une forme de système. Pour eux, le système traditionnel de la programmation ne fonctionnait pas, système pyramidal, système en V, peu ouvert, peu adaptatif, et eux avaient compris que en parlant simplement avec les gens le plus souvent possible, en acceptant d'essayer de faire des prototypes comme le design thinking, eh bien on arrivait à quelque chose qui était déjà un produit bien fait, et en plus d'apprendre et de progresser dans une forme de bien-être et de confiance mutuelle. Et ça, c'était particulièrement important, d'où le lien avec le socle de compétences.
Il y a une forte utilisation de l'intelligence collective, en fait, dans l'agilité.
Oui, complètement. C'est à la fois, on fait attention à ce que peut générer un groupe, parce que parfois, tout un groupe peut partir dans une fausse direction. Donc, on a besoin de quelqu'un qui soit extérieur au groupe, hein, comme dans certaines thérapies cognitives, comme Palo Alto, que j'ai cité tout à l'heure, qui montre qu'il est important d'avoir quelqu'un qui regarde une équipe, mais qui n'est pas vraiment dans cette équipe, qui puisse justement jouer le rôle, comme en cybernétique, de gouvernail, quelqu'un qui va pouvoir guider et arrêter une équipe si elle est dans une mauvaise direction. Parce que parfois, une équipe part dans une mauvaise direction. J'ai des groupes d'enfants, je fais des groupes dans la classe de 4, 5 élèves maximum, et j'ai des groupes de 4 qui partent dans de fausses directions et de fausses connaissances. Et si je ne suis pas là pour les arrêter, ou si un autre élève d'un autre groupe n'est pas là pour les arrêter, eh bien, ils peuvent continuer avec la même erreur pendant une année sans que je m'en aperçoive. Et ça, c'est très, très dangereux de conserver.
Et c'est dû à quoi, alors ? Pourquoi dans un groupe, tout d'un coup, on ne voit pas qu'on va dans une direction qui nous mène dans le mur, par exemple ?
Ah, les biais cognitifs, le fonctionnement du cerveau. Le cerveau fonctionne d'abord en autonomie. On sait maintenant par les neurosciences que le cerveau prend des décisions avant qu'on en ait conscience. Le cerveau fabrique sa propre réalité. Chacun, c'est ce que montre le constructivisme, hein, et les neurosciences, que chaque cerveau fabrique ce qu'il voit grâce à ses sens. Et bien sûr, en termes statistiques, on voit à peu près tous la même chose, mais c'est ce à peu près qui va faire des divergences, qui va faire des points de vue totalement différents. Pour quelle raison des individus vont dans le mur ? Pour quelle raison est-ce qu'on sait que la planète va dans un mur ? Tout le monde le dit, il n'y a pas de réaction, c'est l'Homo sapiens. Pour quelle raison continuer à mettre des notes à des individus ? Pour quelle raison continuer de l'esclavage ? Il y a une culture, il y a quelque chose qui dépasse le groupe et qui fait qu'on est, moi le premier, assujetti à une culture qui est plus forte que moi et dans laquelle je dois m'insérer.
Et donc quand vous voyez un petit groupe d'élèves comme ça, parce que là c'est 4-5, on est sur une petite dimension, est-ce qu'il y a des dynamiques aussi entre les individus qui font que certains peut-être imposent des vues qui font aller dans le mur, ou est-ce que vous avez remarqué des choses dans ces petits groupes d'individus ?
Oui, il y a toujours un enfant, un leader. Alors parfois un bon leader et parfois un leader qui va dans le mur, forcément. Voilà. Et donc, parce qu'il a cette stature, et les autres lui donnent également cette stature.
Oui.
C'est toujours cette relation, cette boucle de rétroaction, comme on parle en cybernétique, qui fait qu'à la fois il se sent, lui, meilleur que les autres, et les autres acceptent. Et donc, l'intérêt dans la salle de classe, c'est donc c'est un open space. Je fractionne ma classe de 25 ou 27 enfants en 6 mini-groupes, donc 6 classes. Et les enfants parlent entre eux, et à ce moment-là, du coin de l'oreille, je parviens à entendre ce qu'ils disent, et je me déplace tout le temps dans la classe. Et donc, en une heure, je vois et j'entends parler tous les élèves, et c'est à ce moment-là que je peux intervenir. Ils sont en train de parler, ils notent des choses, et donc je regarde ce qu'ils font, et je leur indique à quel moment ils font des erreurs, et mon rôle, évidemment, c'est de les arrêter le plus vite possible sur les erreurs. Donc, un, je dois faire émerger les erreurs pour ne pas qu'ils les conservent dans leur tête. Sinon pour moi, c'est perdu. Donc, on émet des erreurs. Et même, il y a des panneaux dans la salle de classe où les enfants écrivent leurs erreurs sur des post-it pour que l'erreur soit acceptée. Et en même temps, que tout le monde puisse venir apprendre des erreurs des autres et qu'on puisse expliquer pour quelles raisons c'est une erreur. Si on ne comprend pas que c'est une erreur, là, il y a de l'apprentissage qui est là, hein, qui est présent. Et c'est ce qui est aussi tout à fait passionnant. C'est qu'on apprend à travers les manuels scolaires qui disent la vérité, mais ils ne disent pas quelles sont les erreurs à ne pas faire, ou alors très rarement. Et c'est dans l'action, dans l'acte d'apprentissage, en faisant, qu'on peut justement faire la part des choses et donc savoir ce qui est une erreur à ce moment-là, ici, mais n'est pas une erreur dans un autre système. D'où, dans le socle commun, la notion de système, apprendre ce qu'est un système, des systèmes naturels, des systèmes techniques, pour que les individus plus tard puissent comprendre, par exemple, l'outil qui est passionnant, l'outil Kinefin, où on fait la distinction entre un système simple, un système compliqué, complexe, chaotique et désordonné, pour percevoir comment agir dans ces différents systèmes. Et une erreur fait partie du système, n'est pas quelque chose à éliminer, à cacher, parce que c'est mal. Si on cache des données sur la pollution des véhicules diesel, ça crée de gros problèmes ailleurs. C'est ce qu'on a pu voir chez Volkswagen, par exemple.
Quand vous allez faire des interventions sur l'agilité, qu'est-ce que vous avez envie de transmettre?
Alors, j'ai envie de transmettre que les disciplines ne sont pas des territoires. Les connaissances ne sont pas fractionnées et mise dans des boîtes. Qu'on soit manager ou professeur, on est là pour accompagner des gens. Et les adultes ont encore leur enfant à l'intérieur d'eux. Enfin, toutes les douleurs quand je rencontre des managers dans les journées agiles, beaucoup me parlent de leurs douleurs quand ils étaient ou enfants ou étudiants dans des salles de classe, même à l'université. Donc il y a toujours cette part-là de manque de confiance, de dureté. Ce que je recommande, c'est d'abord le mot management, l'origine veut dire prendre soin. Ça, c'est la première chose à dire. C'est les travaux de Thibault Le Texier dans un excellent livre où il est allé chercher l'origine, l'étymologie du mot management. Et c'était d'abord employé dans les écoles, dans les fermes et les familles. Hein, le mot management était employé pour prendre soin des individus, de la nourriture, de l'eau, ces choses-là. Hein. Ensuite, bon, ça a été un peu utilisé avec le taylorisme avec d'autres pratiques, mais je veux remettre le mot management dans la salle de classe parce qu'il y était. Donc, ce que je peux recommander à quelqu'un qui veut accompagner des individus, des enfants, des adultes, des personnes âgées, c'est ce qu'on voit dans les maisons de retraite également, il y a des activités cognitives d'accompagnement. C'est prendre soin, c'est donc augmenter ses connaissances, c'est donc, si on ne connaît rien en biologie, lire des livres de biologie et se rendre compte comment c'est difficile d'apprendre pour quelqu'un qui ne sait pas, parce que généralement un professeur de français est excellent en tant que professeur de français, parce qu'il fait, il ne fait du français, il ne fait que ça, et plus un professeur apprend aux autres, plus il connaît mieux le cours de français. Voilà. Donc, aller dans d'autres domaines de connaissances pour voir ce que c'est qu'apprendre. Quand un artisan doit apprendre un nouveau matériau, quand un ouvrier doit apprendre une nouvelle machine, une nouvelle méthode, eh bien, que le manager ou que le professeur l'accompagne. Ça, c'est vraiment important, face avec lui. Et non pas le regarde avec distance. C'est ce qu'on fait chez Toyota, dans le Lean, c'est aller dans le Gemba, c'est-à-dire le terrain, sortir de son bureau, aller parler à la personne qui est sur la machine, qui a des difficultés, car c'est cette personne-là qui trouvera la solution. Donc l'accompagner dans cette solution-là. En tant que professeur ou en tant que manager, je pense qu'il faut soi-même se dire « je suis en train d'apprendre en même temps que les enfants ». Donc, je n'y connais rien en neurosciences, ben, je vais lire plein de livres, assister à des conférences. Je n'y connais rien en biologie, en évolution darwinienne, en thermodynamique. Donc, je vais aller apprendre et me rendre compte comme quoi c'est difficile, fastidieux d'apprendre. Et c'est une immense prise de risque. Une immense prise de risque, oui. Et un enfant, il prend des risques tous les jours. À chaque fois qu'il rentre dans la salle de classe, il prend 10 000 risques. Et bien sûr, si on lui reproche d'avoir pris des risques, d'avoir fait des erreurs, c'est difficile. Même chose dans un groupe. Si quelqu'un prend des risques démesurés, bien sûr, l'équipe est là pour lui dire pas trop de risques, évidemment, ou financiers ou matériels. Donc, les conseils que je peux donner, c'est se fabriquer soi-même son éducariote, son système d'apprentissage et d'augmenter ses connaissances en management, voir ce que c'est que le lean, le vrai lean, pas du lean trafiqué, de l'agile. Alors le mot agile, même chose, le mot agile sort aussi facilement que quand on change de chemise. Non, c'est absurde comme analogie. Mais voilà, le mot agile, non, c'est d'abord un manifeste, c'est d'abord quelque chose de très, très contraignant, hein, l'agilité, qui demande beaucoup de confiance, beaucoup d'estime, beaucoup de connaissances. Voilà, se fabriquer son système de connaissances et surtout ne pas négliger de connaissances. Aller voir les spécialistes. Et à l'arrière même, faire des stages, ça peut être un stage de poterie, ça peut être un stage dans une entreprise, c'est-à-dire à la fois apprendre, mais en même temps faire, parce que l'apprentissage ne passe que par l'action. Moi, je peux tout faire en éducation à travers des livres. Je peux écrire un livre sur comment apprendre, alors que je n'ai jamais mis les ou comment faire du pain, alors que j'ai jamais mis les pieds dans une boulangerie, en ne lisant que des livres de cuisine. C'est très, très facile d'émettre des théories, de dire comment faire. En revanche, être professeur, on est dans le bain, donc ne pas oublier d'apprendre. On est manager, on est dans le bain, donc ne pas oublier également de faire et d'apprendre. Pour moi, c'est la même chose.
Et on a tous cette appétence pour l'apprentissage, pour le fait de vouloir connaître ou approfondir des connaissances ?
Ah, il me semble que oui. Enfin, le cerveau de l'Homo sapiens dans cet état d'esprit-là, je ne dirais pas programmé, hein, bien sûr, c'est pas notre système naturel n'est pas un système artificiel comme l'ordinateur, comme on peut souvent le dire. C'est pour ça que là, dans l'éducation, le mot programme est un peu est malvenu, parce qu'on a l'impression qu'on va programmer les élèves grâce à tout ce qui est dit. C'est-à-dire que je parle grâce au programme, et ça s'inscrit simplement dans le cerveau des enfants, donc non, c'est faux. Le cerveau des bébés est apte à apprendre des langues, n'importe quelle langue, plusieurs langues, apprendre n'importe quel langage, n'importe quelle couleur, n'importe quel système, et ensuite, petit à petit, vers une dizaine d'années, le cerveau va privilégier certaines informations, certaines méthodes, et donc là, chacun va se spécialiser, plus ou moins. Et peut-être lutter contre cette spécialisation grâce à l'école, c'est ce que propose toujours le socle commun de compétences, ne pas se spécialiser trop tôt, mais continuer d'apprendre sans risque dans une salle de classe, est tout à fait normal. Donc oui, pour moi, n'importe quel être vivant peut continuer à apprendre, forcément.
Oui, vous n'avez jamais vu des enfants qui ne voulaient pas apprendre, qui n'avaient aucun intérêt pour quoi que ce soit, quoi.
Alors si, j'ai des enfants de 12 à 15 ans, donc j'en ai plusieurs qui ne veulent pas apprendre ou qui ne veulent pas faire. Alors, pour quelles raisons ? Ma première pensée serait, ils ne veulent pas parce qu'ils prennent un risque et ils vont faire quelque chose qui sera une erreur, ils pensent que je vais leur reprocher, etc., donc le cercle vicieux. A priori, quand je questionne un petit peu, c'est à peu près ce qui s'est passé, mais bien sûr, il n'y a pas de règles précises avec des êtres humains, donc oui, je vois des enfants qui refusent d'apprendre, qui refusent de travailler. J'ai mis en place certaines méthodes pour justement contourner leurs difficultés, les mettre à deux, les mettre en petits groupes, faire en sorte qu'ils soient accompagnés par quelqu'un qui n'est pas trop éloigné cognitivement de lui, assez proche, qui puisse comme ça être un leader pour le remettre un peu en confiance. C'est difficile, mais oui, il y a des enfants à 14 ans qui ont tellement bavé que pour eux, apprendre, c'est terrifiant, ça ne sert à rien.
Ouais. Et c'est vrai que aussi d'enseigner à quelqu'un d'autre, je crois, est une manière d'apprendre aussi très efficace.
Ah oui, moi j'ai énormément appris le français dès que j'ai commencé à enseigner quand j'étais tout jeune. Je ne savais pas tout ce que je devais enseigner. Et à force de l'enseigner en tant que professeur, j'ai appris énormément de choses. En enseignant donc les enfants, je leur demande la même chose. N'importe quel spécialiste devient meilleur spécialiste parce qu'il fait des conférences, parce qu'il écrit des papiers, parce qu'il va au contact d'individus, il s'approprie des connaissances à travers d'autres qui ont plus l'expérience que lui. Donc apprendre aux autres, forcément, permet à travers la parole, à travers l'action, d'avoir une réaction et de voir si ça fonctionne ou pas. Hein, c'est le principe de l'information. Si on donne une information et qu'il n'y a pas de réaction, l'apprentissage est immédiat. On se rend compte que cette information ne sert à rien. Donc l'apprentissage, c'est d'abord de l'action. C'est ce que disait John Dewey. Hein, c'est le learning by doing, l'apprentissage par le faire, par l'action. Et ça ne veut pas dire que les élèves vont devenir professeurs ou doivent faire comme le professeur, mais simplement à faible dose, suivant leurs possibilités. Eh bien, expliquer à quelqu'un d'autre, et quelqu'un d'autre qui puisse recevoir l'information. Ça, c'est important.
Je voudrais reprendre ce qu'on s'est dit dans les grandes lignes. Avoir confiance, et la confiance, elle vient aussi par le droit à l'erreur.
Oui.
Être curieux et continuellement apprendre, et puis surtout faire.
Oui.
Est-ce qu'il manque des éléments importants?
J'aurais plein de choses à ajouter, Joanne.
Je m'en doute. Et alors, il suffit d'aller sur votre site pour voir le système eucaryote et vous comprendrez que oui, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de possibilités, de choses qu'on pourrait explorer. Mais c'est un podcast avec voilà, un temps défini, quoique c'est un temps qui est un peu des fois élastique. Mais je vous propose de passer au questionnaire alors avec la première question. J'aimerais bien que vous nous racontiez une histoire, soit personnelle ou professionnelle, de quelque chose que vous avez peut-être vécu à l'époque comme un échec ou qui était vu comme un échec, mais qui vous a particulièrement fait progresser.
Oui, alors, en fait, je pense que l'échec, l'erreur fondamentale et le plus gros échec, c'est d'avoir enseigné pendant de longues années sans comprendre ce qu'était la pédagogie, l'enseignement, l'apprentissage. Je ne savais pas ce qu'étaient les émotions, ce qu'était le cerveau, ce qu'était la complexité. Donc, en fait, je faisais mon métier sans absolument savoir ce que c'était.
Et comment vous avez réalisé qu'il y avait un autre monde à explorer?
Oh ben l'aide fondamentale, ça a été en 2008-2009, le socle de compétences qui m'a dit, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce dont il s'agit maintenant. Donc je suis allé chercher le mot compétence, qu'est-ce que c'était qu'une compétence, pour quelles raisons l'éducation nationale prenait le mot compétence. Et à partir de là, de fil en aiguille, j'ai augmenté mes connaissances pour enseigner, alors mieux, je ne sais pas. Différemment, sans doute, mais de toute façon, chaque heure pour moi dans la salle de classe est un immense plaisir. C'est un bien-être total, c'est un épanouissement continu. Voilà, je suis totalement épanoui à travers ça. Donc c'était ça en fait la plus grande erreur. Et j'ai quand je vais en Belgique, à Liège, il y a une sublime boulangerie qui s'appelle une gaufrette saperlipopette.
C'est marrant.
Boulangerie pâtisserie et le boulanger a écrit un petit fascicule sur le pain qu'il fait et la farine qu'il utilise et il écrit que pendant 30 ans, il ignorait totalement ce qu'était la farine jusqu'au jour où il s'y intéressait. Voilà, donc je suis pas le seul à faire mon métier sans savoir ce que c'est. Il y a eu une gaufrette saperlipopette avec des gâteaux fabuleux. Et donc ça fait plaisir. Hein. C'est prendre les choses à bras le corps est quand même intéressant.
Et de toutes les techniques là que vous avez explorées, parce que dans Educariote, il y en a plein, et là, vous en avez cité plein pendant le podcast, est-ce que vous pourriez nous parler d'une technique ou d'un outil qui vous a particulièrement marqué ?
Alors, oui, Claire Graves, dans les années 70, a créé un outil qui s'appelait Eclète et qu'on appelle maintenant Spirale Dynamique. Frédéric Laloux en parle dans son livre Reinventing Organizations. Donc, Spirale Dynamique que j'ai découvert dans les années 2000, environ 2000-2002, me semble-t-il. Donc, outil très très utile et qui, pour moi, se rapproche de Kinefin. C'est donc une structure qui permet de mieux comprendre à la fois les individus, mais également les groupes, les sociétés et l'évolution des grandes structures.
Voilà, donc vous pourriez nous le décrire un peu dans quelques mots ?
La spirale dynamique
correspond. Oui.
Alors, c'est un peu comme la pyramide de Maslow, en quelque sorte, hein, pour avoir une analogie. Donc, ce qu'a trouvé Claire Graves, qui était professeur de psychologie, hein, à l'université de Boston. Donc, il a fait plein d'études, plein de recherches, plein de statistiques et est arrivé à considérer que les individus ont des valeurs profondes et que ces valeurs évoluaient. Donc, on a un premier stade qui est le stade de savoir se nourrir, savoir boire, savoir survivre. Un deuxième stade qui est le stade de la mise en commun, de la fabrication d'une tribu. Ensuite, stade suivant qui est le stade de l'individu, de la force, de la colère, de la notion de leader. C'est là où sont arrivées les grandes sociétés avec des chefs sanguinaires, par exemple, qui font régner la loi. Ensuite, une strate supérieure, ou plutôt suivante, qui serait la strate des dogmes, des grandes lois, des grands textes de loi. Puis vient une strate suivante qui permet d'expliquer la notion d'argent, de capitalisme, etc. Donc on monte sur différentes strates pour arriver à un premier grand palier qui est le travail sur l'animalité de chaque individu, et ensuite à un certain palier qui est un palier de grande connaissances, de grandes structures complexes, on arrivait à un palier qui serait plus humain, dans lequel on a des rapports humains envers les individus, non plus des rapports animaux à s'entretuer, par exemple.
Mais comment vous utilisez la spirale dynamique ? Parce qu'on a parlé dans le podcast qu'après, ça semble théorique. Oui. Comment vous la faites rentrer dans le fer, cette théorie ?
Alors, théorie qui est basée sur des données, hein, vécu par Claire Graves et par ses étudiants. En fait, j'ai des enfants de certaines cultures pour qui la magie, les gris-gris ont une forte influence, beaucoup plus que le règlement intérieur. Le règlement intérieur n'a aucune espèce d'importance. On peut leur dire « Attention, le règlement intérieur va te punir », ça ne leur parle pas, ce n'est pas leur culture. En revanche, dire « Je vais parler à tes parents » ou à ta famille, et là, ça a une bien plus grande importance. Pour eux, les valeurs sont là, dans la famille, hein, dans la famille proche, plutôt que, et d'autres, la valeur du règlement intérieur, du collège, est plus importante que ce que peuvent penser leurs parents, même si leurs parents est également important. Voilà, donc ça permet de savoir dialoguer avec des enfants, et surtout, de savoir comment agir avec certains individus. Les individus qui veulent prendre ma place de leader dans la salle de classe, hein, tous les professeurs connaissent ces enfants qui viennent perturber, qui viennent chahuter. C'est des enfants qui sont dans un niveau de la spirale dynamique, à qui il faut montrer que non, c'est nous seuls qui sommes à ce niveau-là. Voilà, donc ça permet d'adapter son langage, sa communication à des individus et pas à d'autres, en quelque sorte.
Merci beaucoup pour cet exposé. quelle est, selon vous, la qualité primordiale à développer pour être un bon manager ?
Je crois que je l'ai dit. Plein de qualités, et il faut aussi plein de défauts, hein, c'est quand même important. Et donc, ce serait d'agir, d'être dans l'action. Puisqu'on manage des gens qui font des métiers différents, essayer de faire ce que fait telle ou telle personne pour apprendre non seulement l'outil, mais également l'état d'esprit, la difficulté, et découvrir que ça peut être très difficile. Moi, je considère que ce que font les élèves est excessivement difficile, et j'en ai pris conscience quand j'ai commencé à apprendre de la physique, de la thermodynamique, des choses qui,
Mais pourtant, vous étiez passé par là, vous avez été enfant, vous êtes passé par l'école.
Oui, j'ai eu aussi toutes les disciplines. Tous les vendredis soirs, tous les enfants en savent plus que moi, parce qu'ils ont vu de la biologie, de la physique, de l'anglais, de l'histoire, que j'ai oublié, j'ai simplement oublié. Mais être là, pour moi, je suis professeur, c'est facile. Et quand j'explique, par exemple, l'épithète, la notion d'épithète, je l'explique bien, avec des mots bien choisis. Donc, tout le monde doit comprendre. Or, c'est faux. C'est faux. Et parce que j'ai lu des livres très bien écrits sur la thermodynamique et je n'ai rien compris du tout, on m'a essayé d'expliquer petit à petit, j'ai essayé de comprendre. Je comprends un peu mieux qu'avant. Mais je suis dans la peau d'un enfant de 12 ans à ce moment-là, forcément. Donc, je suis beaucoup plus souple, beaucoup plus calme, beaucoup plus attentif aux difficultés des enfants. Donc, sentiment de confiance, hein, c'est ce que je disais au départ.
Ensuite, est-ce que vous auriez un livre à nous conseiller à la lecture ?
Alors, un paquet de livres, par exemple.
Non,
alors... Je pense, alors justement, pour toujours dans l'état d'esprit d'Icariote et dans l'état d'esprit justement de pas de territoire dans les connaissances, ce serait pour, si on n'a pas lu Le Macroscope de Joël de René, 1974, pour moi ce livre n'a pas pris une ride et justement montre les analogies, les liens entre les différentes disciplines, chimie, physique, biologie, sciences, éducation, apprentissage. Donc ça, ce serait le premier pour qui engloberait tout le reste. C'est le livre, un des livres à partir duquel j'ai lu d'autres livres et puis demandé à faire des stages d'observation en maternelle, dans le primaire, dans des entreprises, dans des auto-écoles, chez des architectes. Pour voir comment est-ce qu'on apprend partout, puis finalement c'est toujours la même chose. Et puis peut-être un deuxième livre, alors peut-être pas un livre, mais un auteur, ce serait n'importe quel livre de Paul Vaslavik. Paul Vaslavik qui a beaucoup écrit, qui était psychothérapeute et qui a mis en place en quelque sorte le MRI, le Mental Research Institute de Palo Alto. Qui est justement la notion de communication qui est fondamentale entre les homo sapiens et qui crée énormément de problèmes. Voilà, donc Le Macroscope de Joël de René et n'importe quel livre de Paul Vaslavik.
C'est la première fois, je crois qu'on a plus de 70 podcasts, que quelqu'un conseille autant de livres juste en donnant un auteur. Ok, donc on va aller voir.
Bien.
Et puis on va...
Mais on n'est pas obligé.
Et puis on va finir avec une citation.
Oui. Alors, une citation que je cite régulièrement. C'est une citation de Romain Gary à travers qui est dans son livre. Romain Gary, il a écrit des livres sous le pseudonyme d'Émile Ajar, et c'est donc sous le pseudonyme d'Émile Ajar qu'il a écrit Gros câlin. Gros câlin, faire un câlin à un immense boa constricteur, c'est ce qu'il y a de merveilleux au monde. Et il dit dans ce livre, la vie est une affaire sérieuse à cause de sa futilité.
Et je sombre dans un abîme. Mais oui, parce que c'est paradoxal, et forcément.
Voilà.
Merci beaucoup. Si les gens qui écoutent ce podcast veulent vous joindre, quel est le moyen le plus facile, le plus direct ?
C'est mon blog, donc pédagogieagile.com, en un seul mot. Sinon, je suis sur Twitter à Den Hartig Christian. Je poste peu sur le blog parce que quand je commence à écrire, j'écris énormément. Et puis le travail en classe demande énormément, plus toutes les lectures, donc ça devient compliqué d'écrire. Donc voilà, il y a peu de choses sur mon blog, mais voilà, d'anciennes choses, et puis des billets que j'ai écrits, et sur lesquels je ne suis plus d'accord aussi, je ne l'ai pas encore dit, parce que depuis 2012, j'ai évolué. Donc voilà, l'évolution fait que les connaissances, forcément, eh bien, se transforment, se modifient. À force d'avoir de nouvelles connaissances. C'est jamais figé, ce n'est jamais figé.
Oui, et puis on se dit que quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, c'est nous d'aujourd'hui qui n'est pas d'accord avec cette personne, on sera peut-être d'accord avec lui dans un an,
oui.
Et on en
voit. Oui, oui, non, de toute façon, si on n'est pas d'accord, c'est qu'à un moment on sera d'accord, de toute façon.
Vous croyez?
Oui, oui, oui.
Merci beaucoup. Et pour finir, j'aimerais bien savoir quels sont vos projets, de quoi vous rêvez, qu'est-ce que vous avez envie d'accomplir ?
L'écriture d'un livre sur Educariot.
Oui, c'est du boulot quand on voit la carte de votre système. Je me dis que c'est un sacré projet.
Oui, puis plus expliquer ce qui est pour moi une salle de classe, ce qui est le métier d'enseignant, ce que ça représente comme enjeu, comme valeur. Enfin, tout ça est vraiment passionnant. Et puis je m'aperçois que quand je fais des conférences de 50 minutes ou une heure, c'est beaucoup trop court. Je suis tout le temps sur ma faim. Donc je me dis que oui, ce projet devrait arriver à ses fins. Maintenant, j'espère rapidement. Voilà.
Ah, c'est vrai, c'est déjà bien avancé alors.
C'est avancé, oui, c'est avancé.
Merci beaucoup en tout cas. Et puis on va regarder, je vais regarder ça parce que moi je vous suis sur Twitter, donc je vais regarder ça d'un œil attentif.
Merci Johanna, merci beaucoup pour toutes ces questions et cet intérêt.
Merci à toutes et à tous pour votre écoute. On se retrouve dès mercredi prochain. Nous allons parler, si tout se passe bien, des paradoxes de la coopération. Je vous souhaite une excellente semaine. À mercredi prochain.